Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Allez, tout de suite, votre journal. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Renforcer les mesures le week-end, ça ne semble pas être la mesure la plus efficace et peut-être pas la plus pertinente pour contrôler mieux l'épidémie.
Ah oui, les avis sont partagés sur les reconfinements locaux le week-end. Pourtant, c'est le sort qui attend le département du Pas-de-Calais. Le gouvernement devrait l'annoncer ce soir. Encore un peu de sursis pour les autres zones placées sous surveillance renforcée. Pendant ce temps, l'Allemagne prépare son déconfinement. Ce sera progressif et sous condition. Dans ce journal aussi, la toute première prise de parole de PPDA depuis les accusations de viol portées contre lui. C'était sur TMC hier soir. Tension en Irak à la veille de l'arrivée du pape François. Hier, des tirs de roquettes ont fait un mort dans une base militaire américaine. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial. Et puis qui pour remplacer Guillaume Gomez, l'ancien chef de l'Élysée? Et si vous savez préparer le cordon bleu, n'hésitez pas à postuler, c'est le plat préféré du chef de l'État.
À suivre la page des sports et puis mon invité inattendu qui est un agriculteur. Inattendu, on continue de mettre en valeur le monde rural tout au long de la semaine. Lui est inattendu parce que son destin était tout tracé dans le cinéma. Il est le fils d'un grand réalisateur français. Mais il a tout plaqué, il va nous raconter tout ça dans un quart d'heure. Bon réveil, bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et Jean Castex lèvera le suspense ce soir à 18h, mais sauf revirement de situation, seul le Pas-de-Calais devrait s'aligner sur Dunkerque et Nice et se reconfiner totalement ce week-end. Paris et l'Île-de-France ne seraient donc pas concernés par la mesure. Idem pour les autres départements placés sous surveillance renforcée. Emmanuel Macron avait prévenu, il ne faut pas compter sur un retour à la normale avant 4 à 6 semaines.
Et de l'autre côté du Rhin, la chancelière allemande Angela Merkel va mettre en place un plan de déconfinement progressif en 5 étapes et à partir de lundi.
Progressif et conditionnel. Tout dépendra de la situation dans le pays et de la progression du virus notamment. Écoutez Angela Merkel.
Si le taux d'incidence du virus reste stable ou diminue pendant 14 jours, nous pourrons passer à l'étape suivante au plus tôt le 22 mars. Elle concernera la restauration en plein air sur réservation préalable avec un taux d'incidence de plus de 50 et sans réservation avec un taux en dessous de la barre des 50. Elle concernera également les théâtres, les salles de concert et opéras et les cinémas dont l'entrée sera permise grâce à des tests rapides.
La chancelière Angela Merkel qui annonce également que, comme nous, l'Allemagne va autoriser l'utilisation du vaccin AstraZeneca pour les personnes de plus de 65 ans suite à des études médicales encourageantes, dit-elle.
Et justement, à propos de la vaccination, en France, plus de 3 millions de personnes ont reçu une première dose. Un peu plus de la moitié d'entre eux ont déjà reçu les deux.
Mais on ne vaccine pas au même rythme selon les régions. Alors on fait le tour avec Mathieu Charrier.
Le bon élève, c'est la Corse qui a vacciné plus de 6% de sa population, suivie de près par la Bourgogne-Franche-Comté. 160 000 personnes y ont reçu au moins une première dose. Ça représente 5,75% de la population de la région. À l'opposé, le pire élève de France métropolitaine en termes de vaccination, c'est l'Île-de-France. Certes, plus de 400 000 personnes y ont été vaccinées, mais ça ne représente qu'un peu plus de 3% des franciliens. Dans l'ordre, juste derrière la Bourgogne, on retrouve la Nouvelle-Aquitaine, puis la Bretagne, le Centre-Val de Loire, la Normandie, le Grand Est, l'Occitanie. Suivent Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Pays de la Loire, l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France. Avant-dernier, ils n'ont vacciné que 3,85% de leur population. Précisons que depuis lundi, ça s'accélère un petit peu partout et que ce classement pourrait donc rapidement évoluer.
Les informations de Mathieu Charrier. Puis le Brésil annonce un nouveau record de morts du Covid pour la deuxième journée consécutive. 1900 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures, un peu plus de 1600 la veille. Des chiffres qui confirment la nette détérioration de la situation sanitaire dans le pays. C'est le deuxième le plus endeuillé après les États-Unis, avec près de 260 000 victimes en un an.
Il est 6h04 sur Europe 1. Patrick Poivre d'Arvor est sorti de son silence. Il s'exprimait pour la première fois hier soir chez nos confrères de l'émission Quotidien. Pour la première fois depuis les accusations de viol et d'harcèlement sexuel dont il est visé.
Accusations portées par l'écrivaine et vulgarisatrice scientifique Florence Porcel et fermement démenties par l'ancien présentateur du JT de TF1. Tout cela est inventé de toutes pièces selon PPDA.
C'est de la fabulation. On démarre sur quelque chose qui est plutôt beau, voilà, une admiration, semble-t-il, et puis qui se répète, qui se dit dans je ne sais combien de mails, de messages, et vous découvrirez que s'il y a eu séduction ou tentative de séduction, elle ne vient pas de moi. Donc vous verrez tous les mails, je réserve ça bien sûr à l'enquête. Le déballage n'a pas à être fait médiatiquement, mais moi, pendant 2 semaines, je me suis tue, volontairement. Et si je romps ce silence, c'est que derrière est arrivée une campagne ignoble, puisqu'on s'est bien rendu compte que cette affaire ne tenait pas la route. On vous raconte l'histoire de quelqu'un qui aurait été violé, puis qui revient vous voir un peu après, puis qui revient encore à nouveau. Tout ça ne tient évidemment pas la route. Mais après, il y a tellement de saloperies qui ont pu être dites que je voulais m'en expliquer.
Patrick Poivre d'Arvor, invité de Quotidien sur TMC hier soir. La France appelle à mettre immédiatement un terme à la répression en Birmanie, à libérer les personnes détenues et à respecter le choix démocratique du peuple birman. Les mots d'Emmanuel Macron sur Twitter, alors qu'une quarantaine de militants pro-démocratie ont été tués par balle hier en Birmanie. Journée de répression la plus sanglante depuis le coup d'État, il y a plus d'un mois.
Le pape François, lui, est attendu en Irak demain. Hier, 10 roquettes sont tombées sur une base américaine, faisant un mort. Mais pas de quoi décourager le souverain pontife. Il s'est exprimé lors d'une audience à Rome. Écoutez.
Le peuple irakien nous attend. Il attendait Saint Jean-Paul II, mais on lui a interdit de partir. On ne peut pas décevoir un peuple pour la deuxième fois. Prions pour que ce voyage se passe bien.
Jean-Sébastien Soldagné, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Irak. Le pape François arrive donc demain et le contexte est plutôt tendu.
Oui, pourtant, la fin d'année dernière laissait entrevoir une accalmie dans le pays. C'est à ce moment que le voyage apostolique a été décidé, mais depuis quelques semaines, les tirs de roquettes se multiplient. L'ambassade américaine à Bagdad a été ciblée, des bases aériennes aussi, notamment près de l'aéroport d'Erbil, où le pape François terminera sa visite. Pour le renseignement kurde et américain, ce sont des milices soutenues par l'Iran qui seraient à l'origine de ces attaques. Tout cela ajoute au casse-tête logistique de la visite papale. Le Vatican le précise, le programme peut changer à la dernière minute, et Monseigneur Gollnisch de l'œuvre d'Orient, étroitement associé à ce déplacement, confie que la vraie crainte du Saint-Siège, ce n'est pas tant la sécurité du pape, c'est que les fidèles massés pour le voir soient pris pour cible.
Ce qui pourrait être ennuyeux, c'est que sans que sa personne soit visée, il y a un attentat quelque part en Irak où des gens manifesteraient leur mécontentement.
Et les autorités cherchent à limiter ce risque au maximum. François sera privé de bain de foule car l'ensemble du pays sera confiné à partir de demain, raison officielle, il faut freiner la propagation du coronavirus pendant 3 jours, exactement la durée de la visite papale.
Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 en Irak. En Suède, 8 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement hier dans une attaque à l'arme blanche dans le sud du pays. Attaque présumée terroriste, selon la police.
6h08 sur Europe 1, ce n'est pas le coronavirus cette fois, mais une autre épidémie qui fait des ravages dans le monde équestre.
La rhinopneumonie, rien à voir avec le Covid, les êtres humains ne peuvent pas la contracter. Un peu partout en Europe, des centaines de chevaux en souffrent, à tel point que la Fédération française d'équitation a décidé de suspendre toutes les compétitions nationales et internationales. En fait, tout est parti d'un concours de saut d'obstacles en Espagne. Joanna Chabas.
D'abord une fièvre, des problèmes pour respirer et puis des symptômes neurologiques. Les chevaux ne contrôlent plus leurs mouvements, certains ne peuvent plus tenir debout. Il faut parfois les euthanasier. L'épidémie est partie d'une compétition à Valence en Espagne qui a réuni des centaines de chevaux le mois dernier. Pour des raisons sanitaires, 150 sont toujours bloqués sur place, dont une vingtaine venant de France. Bastien Well est soigneur, coincé en Espagne, il décrit des scènes de chaos.
Les vétos n'arrêtaient pas du matin au soir, ils étaient en train de faire un soin à un cheval et on entendait un cheval en train de se débattre 10 mètres plus loin, et en fait le cheval était couché par terre avec les jambes en train de pédaler dans tous les sens, les vétos partaient en courant pour gérer ce cheval-là. 2-3 heures après, il s'est repassé quelque chose à l'opposé, 30 mètres plus loin dans la tente.
La Fédération française d'équitation demande le rapatriement de ces animaux pour leur apporter les meilleurs soins et appelle à la plus grande prudence pour tous les chevaux français face à ce virus très contagieux. En France, plusieurs foyers se sont déjà déclarés, dans le Calvados, en Haute-Savoie ou encore dans l'Hérault, tous dans des écuries de chevaux revenant de Valence.
Joanna Chabas.
Et puis on va terminer par cette petite annonce. Un job à pourvoir, recherche chef de cuisine pour grosse cantine. 900 salariés à nourrir, c'est pas mal. Puis quelques petits dîners d'État à organiser, rien de
pour envoyer
important.
Vos CV. Inscrivez l'adresse 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Il s'agit de remplacer le chef Guillaume Gomez dans les cuisines du Palais de l'Élysée. Ses adjoints tiennent la maison depuis le début de la semaine. Un intérim, puisque le chef de l'État doit nommer dans les prochaines semaines un successeur. Et c'est un rôle très particulier, Pierre Herbulot. Les qualités du futur chef ne se limitent pas à la cuisine.
Un as des fourneaux autant qu'un pro de la com et du relationnel, le chef de l'Élysée doit savoir tout faire. Amené aussi bien à recadrer un commis qui rate une sauce qu'à adresser ses respects à la chancelière allemande, il est la vitrine de l'Élysée. En plus d'être soumis à un devoir de réserve, pas de sortie politique dans les médias, il doit également être discret, explique Gilles Bragard, fondateur du club des chefs des chefs.
Rien ne doit sortir, c'est quand même, vous êtes amené à à vivre proche du président, de sa famille, et être témoin aussi de rencontres qui sont parfois non officielles. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important.
Le candidat idéal, c'est donc celui qui connaît déjà le fonctionnement de la maison, sauf que, selon nos informations, le successeur de Guillaume Gomez devrait être recruté à l'extérieur de l'Élysée, une première depuis plus de 50 ans. Ses deux adjoints ne sont pas intéressés pour prendre sa suite. Trop de pression. Pourtant, les candidatures sont nombreuses et quelques noms circulent. Ceux de cuisiniers multi-étoilés qui quittent leur établissement, le chef du Ritz, celui du restaurant Paul Bocuse, mais aussi ceux de chefs plus discrets comme Fabrice Desvignes, meilleur ouvrier de France aux commandes des cuisines de la présidence du Sénat, l'une des tables les plus méconnues du pays et pourtant l'une des plus prestigieuses.
Pierre Herbulot, et puis jamais 203, un nouveau prototype de la fusée, la future fusée Starship de la société SpaceX, s'est écrasé hier peu après son atterrissage. Troisième événement de ce style après deux tentatives manquées.
Et cette fois, elle s'est posée, fusée au retour, mais elle a explosé par la suite. 6h11, sur Europe 1, c'était le journal de Sophie Echen.